La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant par le Christ, celui qui naît à Noël et que nous attendons. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte en chantant ensemble le premier répond que vous allez trouver dans les livrets à l'entrée du psautier français. Et nous nous levons. En ce quatrième dimanche de l'Avent, toutes les bougies sont allumées. La lumière approche. Nous sommes tout près d'une fête attendue, d'une fête souhaitée, une fête particulière en cette année si étrange que nous venons de vivre. Nous sommes tous dans l'attente de la lumière au milieu des ténèbres et beaucoup de familles attendent cette lumière comme une consolation, comme un moment de joie, un moment de retrouvailles avec leur famille. Nous souhaitons que ce temps de l'Avent, ce temps de culte ce matin particulièrement, soit pour tous et pour vous aussi qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux, un moment de la paix de Noël qui s'approche de nous. Merci de votre présence fidèle et de votre soutien. Merci pour cette communion que nous pouvons vivre en Église malgré toutes les vicissitudes que nous vivons dans notre société. Nous serons accompagnés ce matin par Aurélien Péter, organiste à l'Oratoire du Louvre. Et en ce temps de l'Avent, nous pensons particulièrement à tous ceux qui ont besoin du soutien de la parole de Dieu dans leur vie. Nous prions ensemble pour entrer dans ce temps de culte. Seigneur Dieu, bénis ce temps. Permets que nous soyons ensemble porteurs de salut pour ce monde, que nous soyons, à l'exemple de ton Fils, des lumières pour cette société. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à tes côtés à transmettre ta parole. Une parole d'amour inconditionnel pour ce monde, une parole de soutien et de consolation. Amen. Nous louons Dieu ce matin avec le psaume 98, non pas que nous allons chanter, non, non, que je vais vous lire pour une partie. Voilà. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car il fait des merveilles. L'Éternel révèle sa justice aux nations, il sait rappeler sa fidélité, son amour en faveur de ses enfants. Acclamez l'Éternel, terre entière, sonnez, chantez, jouez, que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face de l'Éternel. Et je vous invite à chanter cette fois-ci le psaume 47, frappez dans vos mains.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Je vous invite à chanter ensemble. Ensemble, nous nous présentons devant Dieu avec cette prière de la diaconesse sœur Myriam. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce renouvelée sur nous tous, cette parole qui nous permet d'être debout devant Dieu, sans accablement, sans culpabilité. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Que cette vie éternelle soit en nous tous, dans la confiance dans notre Dieu. Chantons notre reconnaissance pour cette grâce. Nous confessons notre foi. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfants qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et parfois sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec nous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, dans notre série avec Agnès Adeline Schaeffer, ma collègue, nous avons choisi de prendre ce chapitre de Luc, toujours le chapitre 2, qui est un chapitre extrêmement dense, avec énormément de récits très connus et très importants, et un récit qui va au-delà de la naissance de Jésus, ce moment où Jésus, à 12 ans, va faire une fugue. Dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc, versets 41 à 51. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses en son cœur. Je vous invite à chanter le cantique 113 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Nous prions ensemble. Seigneur, envoie ta lumière sur notre lecture, notre écoute, pour que les récits d'enfance, ceux qui nous illuminent au temps de Noël, puissent être pour nous un retour sur notre propre enfance par rapport à toi. Crée en nous de nouveau des enfants de Dieu, capables de t'entendre, capables d'être porteurs de ce que tu nous laisses dans nos vies, pour ce monde. Amen. Voilà, après cette fugue de Bach, nous pouvons parler ensemble de cette fugue de Jésus. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Quelle claque pour le pauvre Joseph quand même. Lui qui a pris chez lui Marie, qui a accepté qu'elle soit sa femme malgré la honte d'un enfant hors mariage, lui qui a accompli tous les actes d'un père responsable, le voilà balayé d'un revers de manche par un enfant de 12 ans qui a l'air de faire sa crise d'adolescence quand même. Il est vrai que l'évangile de Luc est particulièrement silencieux sur la personnalité de Joseph. Dans tous les récits d'enfance, c'est par Marie que passe l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nulle annonce à Joseph en Luc, nulle fuite en Égypte. Joseph y est inexistant. Pourtant, dans ce passage où l'enfant a grandi, Marie dit bien « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse ». Mais il semble bien qu'il y ait erreur sur la personne. Jésus se revendique d'un autre père que celui qui le cherche tout angoissé avec Marie. En ce quatrième dimanche de l'Avent, nous voici devant une facette particulière de ce Dieu avec nous que nous avons cherché au cours de toutes les prédications précédentes. Ce Dieu avec nous dont nous parlait le prophète Ésaïe. Dieu, Père des hommes. Mais de quel Père parle-t-on ? Dans la famille de Jésus, que la tradition appelle la Sainte Famille, tout semble être bancal et extrêmement moderne en même temps. Le Père n'est pas le Père, puisque c'est un Père adoptif mais pas naturel. La Mère, qui pourrait être indiscutable parce qu'elle est la Mère naturelle, elle, a ceci de gênant qu'on rajoute qu'elle est vierge, histoire de compliquer les choses. Et dans ce passage de Luc, le Fils n'est pas le Fils. Il se revendique d'un autre Père. Il reconnaît la maison de son Père dans le Temple plutôt que dans la maison familiale de Nazareth. Ce récit d'enfance est un récit d'origine, au même titre que les récits d'annonciation, de généalogie ou de naissance de l'enfant Jésus. Car même si Jésus est né depuis déjà 12 ans, ce sont ses premières paroles, les premières paroles qu'on lui prête en tout cas dans l'Évangile. Les premiers mots d'enfant conscient de son existence, de sa place, de ce qu'il est, de ce qu'il doit être dans sa vie. Et sa première confession de foi en quelque sorte. C'est le Fils qui est présenté ici, l'enfant Jésus, dit le texte. Et cette filiation associe de particulier qu'elle se laisse saisir dans un contexte tout à fait particulier qui est le contexte de la Pâque. Jésus fête la commémoration du passage de la mer Rouge par le peuple hébreu. Il fête la libération du peuple qui était en esclavage. Il est à Jérusalem, venu avec ses parents pour cette fête des pains sans levain. Mais au lieu de rentrer chez lui à la fin avec eux, il se prête lui-même à un rite de passage en allant discuter la loi de Moïse avec les docteurs de la loi dans le temple. Tout dans cette histoire est fait d'aller et de retour, comme en écho à un autre texte de Luc, placé tout à la fin, celui-là, le récit des pèlerins d'Emmaüs. Après la mort de Jésus, ces deux voyageurs vont assister à une épiphanie au moment même où ils pensent qu'ils ont perdu Jésus, au moment où ils repartent de Jérusalem, tout déçus de cette histoire qui finit mal. Ils partagent le pain avec un étranger, comme dans une nouvelle Pâque, et ils reconnaissent en lui le ressuscité. Alors ils rebroussent chemin et retournent à Jérusalem. Joseph et Marie sont comme ces pèlerins qui rentrent chez eux et vont être saisis par la perte. Ils ne retrouvent plus leur fils premier-né. Imaginez l'angoisse. Celui qui deviendra le crucifié préfigure sa propre perte pour ses parents, angoissés. Mais il est aussi le ressuscité, celui qu'il faut aller rechercher en se retournant sur le chemin. Joseph et Marie, comme les pèlerins de la résurrection, refont le voyage en sens inverse. L'évangéliste utilise pour parler de Joseph et Marie le même verbe que pour parler des deux pèlerins et de leur retournement au moment où ils reviennent à Jérusalem ayant découvert le ressuscité auprès d'eux. L'enfant Jésus, qui dialogue avec les docteurs de la loi dans le temple, a donc valeur d'épiphanie pour les parents qui reviennent le chercher. Et même si Marie l'interpelle en lui disant « enfant », en utilisant le même mot qui désigne l'enfant qu'on met au monde, donc « mon enfant », Jésus n'est plus celui qui est né d'elle. Il est déjà celui qui naîtra de cette nouvelle naissance qu'on appelle résurrection. D'une Pâque à l'autre, l'enfant dont nous attendons la naissance à Noël est un nouveau Moïse qui libère tout un peuple déjà guidé, déjà libéré, mais qui peine encore à vivre de cette libération. Comme au moment de la naissance de Jésus, Marie garde en son cœur toutes ces choses. Elle est comme ce peuple de Dieu, grosse de cette promesse de Dieu dont la gestation n'en finit pas de se prolonger, sans qu'aucune vie nouvelle ne semble vouloir advenir enfin. Une attente interminable. Nous sommes tous dans l'attente, et une attente que nous gardons dans nos cœurs jusqu'au moment où enfin des choses nouvelles pourront advenir. Jusqu'au moment où enfin les choses de Dieu pourront se révéler. Ce salut dont nous parlent les évangiles. Nous avons devant nous cette nouvelle naissance avec Dieu, cette nouvelle filiation qui nous invite à devenir enfants de Dieu. Mais nous peinons à accomplir ce chemin de retour sur nous-mêmes, cette conversion qui nous procure une origine échappant à toutes les marques de finitude de notre humanité. Jésus échappe. Il échappe au moment de ses 12 ans quand ses parents le cherchent, mais il échappe aussi au moment de la résurrection quand on le croit mort, enfermé dans un tombeau. C'est cette libération qui est sans cesse devant nous et que nous devons arriver à vivre enfin. Cette année, l'Avent pour nous n'en finit pas d'advenir. Nous sommes sur un chemin qui s'étire et se coupe au gré des aléas d'une pandémie qui nous paralyse. Nous avons intégré cette paralysie, cette façon de dire « nous ne pouvons pas faire ceci » ou « nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir ». Nous sommes en train de chercher, nous aussi, et peut-être avec angoisse pour beaucoup, ce que nous avons réellement mis au monde cette année, ce que nous avons fait de ce temps et ce que nous pourrons faire demain. Alors que nous croyons trouver notre avenir au bout de ce chemin difficile, comme s'il fallait un dépassement de tout cet épisode terrible, alors que nous voudrions oublier cet épisode frustrant, nous sommes poussés par l'Évangile à faire demi-tour, à repartir de là où notre Père nous attend pour que nous nous occupions de ses affaires. Comme si cet épisode de perte de repère nous faisait comprendre que nous sommes passés à côté de l'essentiel de notre vie dans beaucoup de domaines. Comme si nous avions cheminé en laissant derrière nous des choses que nous n'avons, dont nous ne nous sommes jamais occupés, peut-être réellement. Mais quelles sont ces affaires du Père dont nous sommes héritiers ? Dans le temple de Jérusalem, Jésus parle avec les docteurs de la loi. Il parle sans doute de cette loi de Moïse donnée au peuple pour vivre sans se perdre. Jésus, lui, ne semble pas s'être égaré en chemin. Il est venu précisément là où l'on parle de la loi. Il est venu discuter de ces jalons posés sur sa route et qui lui serviront à ne pas se perdre dans son ministère, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être enfant de Dieu. Ces mots étonnent. Ces questions frappent l'esprit des adultes qui parlent avec lui. Et l'intelligence de ses réponses est éblouissante. Et quand ses parents le retrouvent enfin, il semble se trouver là où est sa place, comme une évidence dans la maison de son père, à s'occuper de ses affaires comme un héritier digne de l'héritage qu'il a reçu. Cette loi que Jésus discute se résume en deux commandements: aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. C'est sans doute de l'alliance de ces deux commandements indissociables dont parle Jésus avec les docteurs de la loi. Car sa loi à lui, c'est celle selon laquelle le ciel et la terre entrent en parfaite adéquation, celle selon laquelle l'amour de Dieu enfante l'amour pour l'homme. Difficile pour nous de donner corps à cet amour fraternel que nous inspire la loi de Dieu selon Jésus. Difficile de se fier à l'intelligence, de poser les bonnes questions et d'obtenir des réponses, alors que tout est incertain, remis en question semaine après semaine et parfois jour après jour. Nos habitudes sont empêchées, nos projets arrêtés et nos rapports sociaux sont distendus, parfois rendus impossibles. Sur la route de nos habitudes, un virus est venu tout détraquer et perturber dangereusement notre insouciance, si toutefois elle existait avant. Et cela dure depuis plus de 9 mois. Et ce temps de gestation ne semble pas annoncer son terme. Comme souvent dans l'Évangile, pour parler du temps qui fait problème, on utilise des images d'espace. Ce chemin d'insouciance de Marie et de Joseph qui repartent de Jérusalem avec le sentiment du devoir accompli dans ce rite de la fête de Pâques, ils ont fait ce qu'ils devaient faire en bons croyants et ils en perdent jusqu'au souci de leur fils. Ce chemin-là nous parle d'un chemin sur lequel les choses de Dieu sont réglées, relégués dans les habitudes d'une pratique religieuse qui pourrait se reproduire sans cesse, sans même qu'il soit question de Dieu et de la question de ce qu'on en fait pour les autres. Ce chemin nous parle de l'habitude des êtres chers qui ne se voient plus, se font tellement confiance qu'ils pensent toujours que l'autre n'est pas loin, à force de se voir chaque jour. Mais il nous parle aussi de l'arrêt brutal du cheminement de l'habitude et de la nécessité de revenir sur ses pas et de mesurer ce qui compte vraiment pour nous. En trouvant Jésus dans le temple avec les docteurs de la loi, Marie et Joseph trouvent un enfant qui est déjà ressuscité par l'amour de Dieu. Ils le découvrent autre, ils le voient autrement. Eux aussi doivent se dire « mais ce n'est plus notre fils ». Comme si leurs yeux s'étaient ouverts sur un enfant auquel ils s'étaient habitués. Comme si la conscience de la perte tout à coup les avait éclairés. Et pour parler de cet amour qui le ressuscite, Jésus utilise le mot de « père ». Pour un chrétien, ce mot va de soi quand il s'agit de Dieu. Pourtant, les autres religions n'emploient pas cette figure paternelle pour parler de Dieu. L'Éternel ou le miséricordieux ne sont pas tout à fait le Père. Dans l'épiphanie de Jésus comme fils de Dieu, ce moment où sa filiation avec Dieu est manifestée, se produit en même temps une théophanie de Dieu, Père, une révélation d'un Dieu qui est Père pour les hommes. Ce Père n'est pas le Père naturel, il n'est pas le géniteur, il est Père par amour de son Fils. Il est Père parce qu'il suscite la vie de son Fils, il suscite en lui une vie libre, une vie qui n'est pas prise dans les chaînes de toutes les limites naturelles, mais une vie qui transcende toutes ses limites, vraiment. Dieu est Père parce qu'il offre par amour à ses enfants la liberté d'être. Un horizon, voilà ce qui est ouvert devant Jésus. Avec tous les possibles qui sont devant eux, avec toutes les promesses que la vie offre. Un Père qui libère, pas le fameux Père qu'il faudrait tuer symboliquement pour passer outre son image d'autorité, afin d'affirmer et trouver sa place, mais un Père au contraire qui encourage à vivre libre et qui offre une loi pour montrer son amour, une loi qui empêche de se perdre, une loi qui ramène sans cesse à l'essentiel l'amour de Dieu et l'amour des autres. Jésus a désobéi à ses parents pour mieux obéir à celui qu'il appelle son Père. Il ne l'a pas fait contre ses parents, mais pour accomplir sa vie. Une vie d'enfant de Dieu, aimé de lui, comme il sera déclaré au moment de son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Comme je le disais tout à l'heure, notre chemin est difficile, chers amis. Et bien souvent, nous avons le sentiment de marcher dans les ténèbres. Pourtant, nous pouvons à tout moment nous retourner sur ce chemin et aller retrouver l'essentiel de notre vie d'enfant de Dieu en aimant celui qui est notre Père et en aimant tous ceux avec lui qui sont nos frères et sœurs. En ce temps de l'Avent, certains auront la chance de retrouver une partie de leur famille, des amis. D'autres devront attendre encore. D'autres, enfin, n'auront pas de famille ou d'amis à attendre. Pour tous, il existe un Père qui aime et qui existe au-delà de ces entraves avec lesquelles nous vivons aujourd'hui. Il nous libère pour que nous puissions nous occuper de ses affaires, des affaires d'amour, des affaires de fraternité, de solidarité, des affaires de foi en Dieu et en l'homme. Nous avons un royaume à construire et le chemin est plein d'embûches. Mais le Dieu qui veille sur nous comme il veillerait sur des enfants. Il fait en sorte que ne nous perdions pas. Alors que ce temps de Noël soit le temps de la résurrection d'un amour perdu en chemin, le temps où les enfants bien-aimés du Père pourront accomplir ces affaires étonnantes et faire de ce monde, non pas le monde d'après comme on l'a beaucoup attendu, mais le monde promis par un Dieu qui nous aime. Amen. Voilà, c'est le moment de quelques annonces et c'est Juliette Lauvergeat qui est au Conseil presbytéral qui va partager les annonces pour nous ce matin. Merci Juliette.
Bonjour à tous, ici et sur les réseaux. Merci pour votre présence. Merci à Béatrice Cléromazir, notre pasteur, pour ce culte d'aujourd'hui. Merci à Aurélien Peter à l'orgue qui nous accompagne. Et puis merci à tous ceux qui permettent que le temple soit ouvert aujourd'hui et que le culte soit transmis sur les réseaux. Alors, bonne nouvelle, l'oratoire va être ouvert pour tous les cultes du temps de Noël et pendant les vacances. Et tous ces cultes seront diffusés en direct. Donc le jeudi 24 décembre à 19h avec notre pasteur Béatrice Cléromazir. Le vendredi 25 décembre à 10h30 pour le culte de Noël, toujours avec Béatrice. C'est Agnès Adeline Schaeffer qui assurera le culte du dimanche 27 et Gilles Castelnau qui assurera le culte du dimanche 3 janvier. Merci par avance à eux. Vous avez dans vos louanges et dans vos psautiers des enveloppes de dons, ce qui vous permet de réaliser un don nominatif en y inscrivant votre nom, prénom, vos coordonnées. Elles seront présentes pendant les 5 cultes des vacances. Alors, en cette année de Covid-19, nous vous sollicitons particulièrement. Vous êtes déjà plus de 500 à nous avoir encouragés par vos dons et parce que vous appréciez la parole libérale qui est portée par l'oratoire et c'est déjà extraordinaire. Vraiment, un très, très grand merci à tous du fond du cœur pour votre générosité. Et nous avons encore besoin de votre soutien pour ne pas creuser notre déficit et pour continuer à porter cette parole libérale. Nous devons encore trouver 80 000 euros d'ici la fin de l'année et nous avons besoin que chacun d'entre vous, à la hauteur de ses moyens, nous encourage, nous montre sa solidarité envers l'oratoire. Donc vous avez ces enveloppes, vous avez notre trésorière Juliette Vasson à l'entrée qui a un terminal de paiement par carte si vous voulez faire des dons par carte. Et puis sur notre site internet, pour ceux qui sont à distance ou pour qui c'est plus pratique, le bouton don joyeux. À l'issue du culte, je vous inviterai à laisser vos cantiques sur les sièges, ce qui permettra d'avoir un temps de désinfection. Et nos sacristains les récupéreront. Donc c'est maintenant le temps de l'offrande. Merci vraiment du fond du cœur pour votre soutien qui est tellement important pour nous.
Pardon Aurélien, je rajouterai que c'est important pour vous parce que c'est votre église et vous êtes l'église. Voilà, merci. Merci Aurélien pour cette interprétation d'un morceau que vous retrouverez dans le conte pour enfants que nous avons filmé ici même avec les enfants d'éducation biblique et que vous avez, dont le lien, vous avez pu le recevoir avec la newsletter. Et je pense que là, maintenant, on peut le trouver facilement sur tous nos réseaux. Donc n'hésitez pas à regarder ce petit moment de bonheur de 22 minutes qui va vous enchanter avec la fraîcheur des enfants qui nous apporte toujours énormément. Je vous invite à la prière et bien sûr, et les scouts ont ajouté un petit film aussi qui est très chouette avec le chant des patrouilles que certains vont retrouver avec émotion et vous allez voir tous les scouts qui nous saluent en ce temps de l'Avent. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces belles réalisations. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te remettons nos vies avec toutes les joies que nous y trouvons, tous les amours que nous y vivons, tous ceux qui peuplent ces vies et auxquels nous tenons absolument. Bénis tous ces liens, toutes ces relations qui nous font vivre et qui disent qui nous sommes. Bénis, Seigneur, toutes ces alliances passées dans nos existences, dans nos amours, nos amitiés, dans tout ce qui fait que nous sommes humains ensemble. Nous te prions, Seigneur, pour accroître notre solidarité les uns envers les autres, pour nous permettre de trouver toujours le bon chemin pour rejoindre ceux qui ont besoin de nous et pour nous laisser aider quand nous avons besoin des autres. Facilite, Seigneur, ces cheminements intérieurs qui nous permettent de revenir sur nos vies et d'adoucir toutes les embûches, d'aplanir tous les chemins pour que tu puisses venir jusqu'à nous. Éclairer nos vies, évangéliser nos rapports avec les autres. Nous te demandons, Seigneur, ton soutien et ton secours pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse, tous ceux qui sont dans les angoisses de la maladie, tous ceux qui sont dans les angoisses professionnelles, tous ceux qui ont peur pour leur avenir. Seigneur, aide-nous à les aider. Aide-nous à être là pour qu'ils tiennent bon. Aide-nous à ouvrir des horizons devant eux, tous ensemble. Nous te remettons ceux qui passeront Noël en prison, ceux qui attendent une libération réelle et qui ont parfois peur de cette liberté. Donne-nous, Seigneur, d'être là, accueillant, quand ils la recouvriront. Nous te demandons, Seigneur, ton soutien, ton amour, ta lumière. Et ensemble, comme des enfants qui se confient à leur Père, en toute confiance, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce moment était une étape dans nos vies pour nous retrouver, pour faire campement ensemble pendant un temps. Il nous faut repartir sur nos chemins et aller éclairer les chemins de ceux qui ont besoin de cette parole que vous avez reçue ce matin. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui naît à Noël vous bénit et vous garde. Amen. Si vous voulez prendre le temps d'écouter Aurélien, vous pouvez vous rasseoir et prendre ce temps ensemble. Merci.